Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 13 novembre. Pas mal de choses à vous raconter, un petit peu avec les débats à l'Assemblée en ce moment sur des amendements qui sont votés, notamment sur une grosse attaque contre des agences qui tentent de protéger l'environnement, ou en tout cas de réguler un petit peu ce qui s'y dit. On va parler aussi de déformation journalistique, hein, pour rester propre, avec des petits scandales qui émanent du monde des médias, de la presse, autour notamment d'une interview avec Emmanuel Bompard, c'était sur la France Insoumise, ou des graphiques qui sont véhiculés sur les pages de France Info. On va parler de la BD avec le Festival d'Angoulême, qui n'est pas très bien parti pour cette année, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et toujours dans ces questions un peu de guerre culturelle, on va dire, de visibilité médiatique, d'un colloque au Collège de France, hein, sur la Palestine, histoire de la Palestine et l'Europe, qui est menacée aussi avec une tribune de chercheurs. Voilà, on va parler aussi de ce qui se passe un petit peu du côté de la COP30 au Brésil, où les indigènes aimeraient bien être entendus dans le cadre de ces discussions, et visiblement, c'est pas trop possible. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal, il y aura peut-être d'autres petites choses d'ici là. Pas de répit donc pour les établissements publics dédiés à la protection de l'environnement. Incendie en 2023, bouc émissaire de la crise agricole en 2024, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, est de nouveau la cible d'attaque, cette fois donc à l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre du projet de loi de finances 2026, qui décidément s'attaque à pas mal de secteurs qui nous intéressent, et bien que des parlementaires de droite proposent de supprimer donc l'OFB, qu'on appelle la police de l'environnement. Elle est chargée en effet de faire respecter les lois, par exemple relatives aux pesticides ou à la pollution de l'eau ou au respect des arrêtés sécheresse. À côté de ça, deux autres maillons essentiels de la politique environnementale sont aussi visés, hein, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et la CNDP, la Commission nationale du débat public. Alors c'est Laurent Wauquiez, le chef des parlementaires de groupe droite républicaine, hein, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a déposé donc avec son groupe 3 amendements pour faire disparaître ces instances. Ils étaient examinés hier, ces amendements, dans le cadre donc de l'examen de la seconde partie, donc, qui concerne les dépenses du fameux projet de loi en commission des finances. Ce groupe parlementaire n'est d'ailleurs pas le seul à rêver de couper les fonds à ces organismes, puisque le député RN Mathias Renault a lui aussi déposé des amendements dans la même veine. Alors, pour ce qui est donc de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ces élus du groupe droite républicaine, ils justifient donc l'amendement en arguant que cet organisme se superposerait à d'autres opérateurs agissant dans le domaine environnemental, comme l'ONF, l'Office national des forêts, qui, vous l'aurez compris, lui ne s'occupe que des forêts. Donc c'est un peu bizarre comme remarque, et ils expliquent que tout ça se fait dans un souci de lisibilité de l'action publique et d'économie budgétaire, ça on aura compris, qu'ils disent vouloir supprimer donc les crédits de fonctionnement de cette OFB. Là, c'est pour les termes un peu... c'est bien tourné, hein, c'est dans un amendement, mais si on écoute ce que disait Laurent Wauquiez en 2024 dans une lettre qu'il avait envoyée aux agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, il taxait l'OFB de coalition d'idéologues qui accablerait les agriculteurs de contrôle absurde, ce qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux mots utilisés par le Rassemblement National dans son amendement, où là, on décrit l'OFB comme une police verte déconnectée du terrain, mue par une idéologie écologiste punitive et harcelant les agriculteurs. Dame. Bon, pourtant, si on regarde les chiffres, l'OFB n'effectue chaque année que 3000 contrôles administratifs pour 400 000 exploitations agricoles. Je crois que de leur côté, ils se plaignent plutôt d'être sous-dotés que d'être harcelants. Ça fait moins de 1% des exploitations agricoles qui sont contrôlées chaque année. Et maintenant, ils ont demandé à pouvoir avoir une arme sur eux parce qu'ils se sentent pas en sécurité quand ils arrivent sur certaines de ces exploitations. Alors, si on passe après l'OFB, je vous ai parlé de la Commission nationale du débat public, le groupe droite républicaine, donc il veut le supprimer également. C'est une autorité qui date de 1995, hein, une autorité publique qui veille à ce que les citoyens soient concertés dans l'élaboration des projets avec des conséquences sur l'environnement. Je vous en parle souvent. On peut parler des mines de lithium, des usines de batteries, des sites éoliens, etc. D'ailleurs, les recommandations de cette commission ne sont pas contraignantes hein, au grand dam des gens qui y participent, mais parfois peuvent mener quand même à un ajustement des projets. Laurent Wauquiez dépeint la CNDP comme une source de procédures inutiles et redondantes qui ralentissent la mise en œuvre d'investissements structurants et nuisent à l'attractivité de notre pays. Voilà. Donc la démocratie, pour lui, ce sont des procédures inutiles et redondantes puisqu'il aimerait que, visiblement, les industriels puissent mener leurs projets de manière assez uniforme. Et enfin, la dernière institution qui est dans le viseur de la droite, donc l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. C'est à peu près 1300 postes équivalents temps plein. Et c'est donc un travail d'expertise qui est fourni par l'ADEME et qui conduit de nombreuses politiques publiques. Hein. Par exemple, pour la sortie des énergies fossiles. C'est notamment l'ADEME qui est à l'origine de Transition 2050. C'est une étude de référence hein, qui imagine 4 chemins différents pour conduire la France vers la neutralité carbone, notamment grâce à la sobriété énergétique. L'ADEME, elle était déjà dans le viseur l'an dernier avec un budget qui lui avait enlevé quasiment 40% de ses fonds. C'est des fonds incitatifs dont elle bénéficie, qu'elle peut distribuer donc, à travers une multitude d'appels à projets. Et c'est un petit peu à part donner donc, des expertises, elle peut aussi donc, donner de l'argent à des projets qui vont dans son sens. Ben donc vous aurez compris, cette manne était déjà très asséchée. Laurent Wauquiez expliquait mi-octobre dans la presse que les experts de l'ADEME ne seraient pas des experts, mais pour lui des individus portés par une idéologie d'extrême-gauche. Ces attaques dépassent le cadre normal du débat démocratique, d'ailleurs regretté le patron de l'ADEME, Sylvain Wasserman. Tout cela s'inscrit de manière plus générale dans le backlash écolo. Le backlash, c'est ce qu'on appelle le retour de bâton. C'est d'ailleurs un terme qui a été pas mal utilisé aujourd'hui dans les médias. Je ne sais pas, il y avait une thématique là-dessus. C'est ce qu'a analysé récemment dans Reporter Pierre Condamine, un chargé de campagne de surproduction aux Amis de la Terre. Il dit « Il faut taper sur l'écologie qui semble devenue superflue dans le contexte de la dette budgétaire. »
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
On reste dans les torsions un peu médiatiques et le débat public avec Radio France qui a publié ce mardi un message corrigeant des propos tenus par une journaliste de France Télévisions à la télévision, donc au sujet du maire élu de New York, le nouveau maire Zoran Mamdani. C'était une interview qui a eu lieu ce dimanche, une interview donc de Manuel Bompard, un insoumis, diffusée sur France Inter et la chaîne de télé France Info. Au cours de cette émission donc, qui s'appelle « Questions politiques » avec l'invité Manuel Bompard, des questions de la journaliste Alix Bouyaguet sur Zoran Mamdani et peut-être l'enthousiasme des insoumis face à cette élection, eh bien ces questions ont suscité des interrogations des auditeurs. Radio France et France Télévisions y répondent. C'est ce qu'expliquait le groupe dans un message publié sur X et sur le site de l'émission. Des précisions donc signées Radio France et France Télé. Ils reviennent donc sur plusieurs affirmations de la journaliste. Au sujet du nouveau maire, elle pose des questions en disant « Que pensez-vous de ci, que ça ?» Je vous rappelle que ce nouveau maire a été élu le 4 novembre et c'est par exemple sa position vis-à-vis d'Israël et de Gaza, sur lequel elle cherchait Manuel Bompard. Par exemple, elle a dit, en parlant de Mamdani, « Quand on lui demande de condamner le 7 octobre, bien souvent il botte en touche et répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. » Dans son message, Radio France reprend, comme avait fait Bompard aussi pendant l'émission, parce que lui, il a réagi sur le coup. On ne peut pas dire qu'il botte en touche, on ne peut pas dire qu'il n'a pas condamné le 7 octobre, car en effet, dès 2023, il a dénoncé des crimes de guerre, et dénoncé encore, d'ailleurs, ce 7 octobre 2025, 2 ans après, des crimes de guerre horribles. Mais visiblement, ça ne suffit pas, puisqu'elle a continué à attaquer sur ce sujet, et à lui demander, par exemple, pourquoi est-ce qu'il soutenait donc, le maire de New York qui aurait dit des mots sur l'intifada ou intifada partout. Et en fait, il ne les a jamais tenus, il n'a juste pas dénoncé des jeunes qui les auraient dit. Enfin bref, fait des gros raccourcis. On lui demande qui lui a écrit ces questions. Après cette émission, qui était en direct, LFI avait indiqué saisir l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, en écrivant à plusieurs reprises au cours de l'entretien, la journaliste a tenu des affirmations factuellement fausses. Et d'ailleurs, Bompard était bien préparé puisqu'il il les a corrigées en direct aussi sur un truc qui n'a rien à voir, mais des avancées justement à l'Assemblée nationale par rapport à la réforme des retraites que la journaliste, dans sa question, en fait, attribuait au Parti socialiste. Là-dessus, il l'a corrigé. Le coordinateur donc, national de la France Insoumise, c'est son rôle à Bompard, il les avait corrigés en direct en disant « Pardon madame, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens, pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, pour votre question, vous les désinformez. » En réponse donc à ces messages de Radio France et de France Télé, Manuel Bompard a estimé ce mardi qu'ils reconnaissent que les questions étaient mensongères après 2 jours de silence, mais n'annoncent aucune décision concrète face à cette désinformation manifeste. Et ils cherchent donc, ils ont monté un dossier pour l'ARCOM pour que cette histoire ne s'arrête pas là. Et à noter que dans la même temporalité, là, dans la semaine, il y a un graphique qui a été publié sur France Info, qui parle des intentions de vote des Français, donc un sondage qui est aussi assez incroyablement mal fait, on va dire, ou en tout cas qui est trompeur. On voit des barres, on voit des chiffres avec des pourcentages et des barres qui ne correspondent pas du tout à ce que les chiffres sont censés montrer. Et bizarrement, bah, par exemple, ça met François Hollande bien plus haut que le chiffre qui est en dessous. Enfin voilà, il y a le RN en tête, il y a des... rien ne va en fait au niveau mathématique. Donc je ne sais pas s'ils ont fait faire ça par une IA, ça serait possible parce que l'IA est assez nulle en maths visiblement. Allez, on part dans le monde de la BD et la bande dessinée. Je pense que Bruno vous en parlera aussi tout à l'heure, à 14h. Ça concerne le plus grand festival de France, le festival d'Angoulême, hein, le FIBD. Et c'est un peu tremblement de terre en ce moment dans ce petit monde, qui n'est pas si petit, hein, en France, c'est quand même un gros secteur. Eh bien, l'édition 2026 est fortement remise en cause, parce que ça a normalement lieu du 29 janvier au 1er février. Et l'événement est dans une grosse polémique. Il a annoncé d'ailleurs ce matin même, là, il y a quelques heures, changer de stratégie pour choisir la prochaine structure organisatrice après 2027. Parce qu'en effet, l'organisation de ce festival est confiée à une structure, hein, suite à des appels d'offres, et c'est là qu'il y a des gros problèmes. Je vous rappelle, donc, ce samedi 8 novembre, l'association FIBD, qui est celle qui organise le festival, eh bien, a annoncé confier à nouveau l'organisation de l'événement à une société qui s'appelle 9e Art Plus. Et ça n'a pas plu du tout au quasiment tout le monde dans le monde de la BD. Hein. Une véritable levée de bouclier s'est produite. Une pétition est partie avec déjà plus de 2500 signatures que des auteurs de BD et dont elle quasiment la vingtaine des grands prix de toutes les dernières années. Donc des auteurs prestigieux et aussi des éditeurs indépendants avec le titre « Nous n'irons pas à Angoulême ». Tous ces signataires appellent en effet au départ de Franck Bondou qui est donc à la tête de 9e Art Plus. Ils lui reprochent des problèmes de management, on parle de management toxique, hein. On parle aussi du licenciement d'une salariée qui avait porté plainte contre un collègue pour viol, agression sexuelle, et donc il a préféré la licencier. Et encore, surtout de manière plus générale, par rapport à ce festival aussi, un manque de considération des auteurs, des autrices, des éditeurs et des dessinateurs, et aussi d'ailleurs du public, puisque c'est assez cher de pouvoir se balader dans les allées d'Angoulême. Visiblement, les artistes et éditeurs ne sont pas pris en charge. Ils doivent payer pour installer leur stand. Enfin voilà, rien ne va en tout cas dans ce festival pour les actrices du monde de la BD. Ils ont donc carrément appelé au boycott hein, de la prochaine édition d'Angoulême. Et je vous le disais, les gros éditeurs ont suivi le pas d'ailleurs pendant le week-end hein, sur les réseaux sociaux, ça a pas mal carburé. Dargo, Dupuis, Le Lombard, Cana, Urban Comics, Casterman, Futuropolis, Sarbacane, Gallimard BD... Et ce mardi, c'est le comité de sélection qui a aussi vu ses rangs se clairsemer. Hein, donc le comité de sélection, c'est celui qui va donner les prix. Donc c'est sûr que si vous n'avez plus de grands noms qui donnent des prix, ça n'a plus trop d'intérêt. Ils sélectionnent d'abord les albums qui vont concourir au prix du festival. Par exemple, Arthur de Pince, qui a dit qu'il allait boycotter aussi. Ce comité de prix est donc indépendant, lui, de la boîte, hein, de 9e Art. Et c'est des auteurs, des spécialistes et des journalistes. Il est évidemment nécessaire au bon fonctionnement de l'événement, puisque le prestige hein, des prix d'Angoulême repose en partie sur la qualité de la sélection avec ce jury. Les autrices et auteurs sont inflexibles depuis le mois de janvier dernier. Ils ont par milliers signifié le boycott de l'édition 2026. Sauf qu'en face, et ben justement, rien n'avait bougé jusqu'à très peu de temps. Et au contraire, le fait de reconduire cette société-là il y a peu, et ben c'était pour eux un véritable, on va dire, fin de non-recevoir, voire un doigt d'honneur même pour certains, à leur démarche. Et ils rappellent ainsi que sans eux, l'événement ne pourra pas exister. Ces dernières heures semblent donc enfin leur donner raison, puisque les pouvoirs publics se sont un petit peu emparés du sujet. Mais d'abord, on peut parler quand même de ce Franck Bondou, hein, qui visiblement n'est plus très bienvenu à l'organisation de ce festival avec sa boîte. C'est donc le délégué général de la Fédé. Il ne la joue pas profil bas hein, ces derniers jours. On a un courrier du 25 septembre qui a été révélé par le journal L'Humanité qui adressait une lettre assez offensive, agressive à l'ensemble des partenaires publics, donc alors que c'était l'appel à projet, alors qu'il n'avait pas été reconduit. Sa lettre, c'était « Préjudice subi et contestation de la procédure de mise en concurrence ». Lui, il était déjà pas content qu'on lui mette en concurrence avec d'autres boîtes. Et en gros, il voulait demander, j'imagine, de l'argent pour le préjudice subi. Bon, en réaction de cette situation, vous l'aurez compris, très crispé, le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, a indiqué qu'il assumait sa responsabilité et qu'il envisageait donc avec les pouvoirs publics de reprendre en main la gestion de ce festival, puisqu'il, visiblement, le Franck Bondou a réussi aussi à se mettre à dos les élus locaux. Et donc, ils ont annoncé ce matin un nouveau processus de sélection pour le futur organisateur de l'événement. Donc, ils vont écarter l'actuel délégataire 9e Art Plus et M. Franck Bondou, son patron, qui ne sera pas reconduit, lui, au-delà du contrat actuel, qui expire en 2027. Donc, l'association est déjà en train d'essayer d'organiser un comité de pilotage pour lancer un nouveau processus de sélection avec des représentants de l'association, des financeurs publics, des professionnels du secteur. Ce comité sera prêt le 18 décembre et il devra définir les orientations stratégiques et priorités liées au prochain appel d'offres. Et ça, ça nous renvoie au mois de juin prochain. Mais en attendant, bah cette année, il est encore sous contrat avec 9e Art Plus. Et donc, cette 53e édition de l'événement sera particulièrement scrutée. Aura-t-elle lieu ? Sera-t-elle juste des allées vides ? On rappelle que ce festival a été créé en 1974 et qu'il est organisé par cette société 9e Art Plus depuis 2007. La dernière édition, donc début 2025, avait déjà été marquée par une mise en cause très virulente de cette société privée, puisqu'elle était aussi accusée d'opacité financière, de dérive mercantile et donc d'avoir licencié cette salariée en 2024 qui venait de porter plainte pour un viol survenu en marge du festival. Alors pour cette année, les allées resteront-elles vides de public et d'auteurs éditeurs ? Certains d'entre eux appellent plutôt, par exemple, à venir les retrouver dans les couloirs et les halles d'autres festivals, qu'il y en a très nombreux en France, dont, disent-ils, l'organisation et le rapport justement aux auteurs, autrices et éditeurs sont bien plus humaines et bien plus respectueuses.
Laisse béton.
Décidément, le monde de la culture et de la recherche sont toujours sur les braises. Notre tribune, qui a été publiée sur le journal de l'Humanité, est elle aussi signée par 1500 chercheurs et intellectuels français par rapport à un colloque qui doit se tenir au Collège de France. C'est 13 et 14 novembre, donc ce colloque international s'intitule « La Palestine et l'Europe, poids du passé et dynamique contemporaine ». Après une polémique initiée par Le Point et la LICRA, amplifié et relayé dans les médias et par des réseaux sociaux d'extrême droite, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Philippe Baptiste, qui a jugé pertinent de nourrir ces accusations infondées et diffamatoires en faisant pression sur l'administrateur du Collège de France. Ce dernier, dans la foulée, a annoncé donc l'annulation de l'événement, une décision qui constitue une atteinte grave aux libertés académiques et scientifiques. Ça, c'est le premier paragraphe de la tribune donc, que je vous livre. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, donc continuent ces chercheurs, chercheuses et intellectuels, mais d'une violation de plus s'ajoutant à une longue liste d'atteintes aux libertés scientifiques depuis près d'une décennie, qui s'est notoirement accentuée ces deux dernières années, des atteintes qui vont aujourd'hui jusqu'à toucher le Collège de France, lieu emblématique de la production et de la transmission du savoir. Ce prétexte de neutralité académique apparaît comme un instrument de contrôle idéologique des institutions scientifiques pour dissuader toute production intellectuelle critique. Quant au contenu de ce colloque, la lecture de l'argumentaire qui l'accompagne, tout autant que la motivation de la composition des différentes sessions, suffit à s'en convaincre que c'était bien un événement scientifique ancré dans les recherches actuelles qui offre l'opportunité à des chercheurs du monde entier, reconnus dans leur discipline, de présenter leurs travaux sur les différents thèmes abordés. Cette volonté délibérée donc d'empêcher la recherche académique sur Israël-Palestine, dès lors qu'elle contrevient au cadre intellectuel porté par des soutiens à la politique israélienne, est extrêmement préoccupante et elle impose une réponse à la hauteur des enjeux. Et donc ces chercheurs, professeurs, étudiants disent à leur ministre qu'il vient par ce geste de perdre leur confiance et ils demandent expressément, carrément, sa démission.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Pendant ce temps, c'est le traditionnel automne palestinien dans les Cévennes qui lui aura bien lieu. C'est l'association France-Palestine Solidarité qui organise donc tout un automne de rencontres autour de la Palestine, de la Grand Combe à Monoblé. 7 rendez-vous au cours des 16 jours qui viennent. Je vous donne juste deux exemples les plus proches de chez nous. Ce soir, un premier film, c'est au festival, se lancera pardon, le festival à Saint-Jean-du-Gard. C'est à la salle Stevenson, évidemment, le film Un médecin pour la paix, un documentaire franco-canadien sur le docteur Izzeldin Abouelaïch, un médecin palestinien qui s'est heurté au mépris colonial. D'autres étapes pour ce festival, à la Grand Combe, Sandra, Saint-Martin-de-Valgalgues, Monoblé ou Anduze. Hein. À Monoblé, c'est à la fin du mois, le jeudi 27, que à la salle Bernard Meulien, vous pourrez voir Put Your Soul on Your Hand and Walk, un documentaire là aussi très, très important sur la vie des Palestiniens. Et la soirée de clôture se fera le samedi 29 octobre dans la salle Rohan de l'espace Pellico. On sera donc à Anduze. Je continue avec les rendez-vous autour de chez nous. Après le 10 et le 18 septembre, le 15 novembre semble en effet être la date choisie par le mouvement Bloquons Tout pour continuer cette mobilisation qui s'était avérée massive sur Montpellier, en tout cas au niveau des manifestations. C'est donc ce samedi et la journée commencera à 10h30, place Albert 1er pour une vélorution, une balade manif en vélo. Puis les 7 ans du mouvement des Gilets jaunes seront fêtés à partir de 12h30 sur le rond-point de près d'Arène, avant une manifestation qui démarre à 14h, place Albert 1er, et une action en lien avec la Palestine à 15h30. Et du côté de Paris, le mouvement Bloquons Tout, en convergence avec des Gilets jaunes, organise là aussi sa grande mobilisation ce 15 novembre. Un rassemblement est prévu place du Palais Royal, où les participants remettront une lettre de licenciement à Emmanuel Macron et ils présenteront leurs revendications issues d'assemblées citoyennes locales. Voilà, d'une journée très chargé aussi sur Paris, et en tout cas le mouvement appelle à un processus constituant populaire. Il prépare déjà une rencontre nationale le lendemain pour discuter des suites communes, le boycott, le Black Friday et autres actions coordonnées. Ce 15 novembre donc à Montpellier, vous pourrez choisir hein, deux salles, deux ambiances, hein, on reste dans cette thématique de bataille culturelle, les Gilets jaunes d'un côté et visiblement Notre-Dame de Paris et ses traditions de l'autre. En effet, ce 15 novembre, c'est le Zénith de Montpellier qui accueillera un spectacle qui s'appelle « La Dame de Pierre ». C'est un spectacle qui mêle danse, chant et projection vidéo et qui veut retracer l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avait pris feu, vous le savez. Présenté comme un hymne à la beauté et à la foi, donc ce spectacle s'inscrit dans une tournée nationale qui remplit les grandes salles depuis 2 ans. Ce spectacle, vous le devinez, il a été créé par Corentin Stemmler, enfin non, ça vous ne pouvez peut-être pas le savoir, mais je vais vous raconter un peu son CV, vous allez comprendre. Le Monde le décrit comme un catholique identitaire, La Marseillaise le présente comme un ancien rédacteur de la revue de l'Action française, hein, une organisation royaliste et antisémite, et c'est également un ancien comédien du Puy du Fou, dirigé, vous le savez, par Philippe de Villiers. Ce spectacle est ainsi donc conçu comme un roman national réactionnaire, des héros bâtisseurs de Notre-Dame, un peuple en prière, des rois inspirés, des artistes éclairés, ça c'est pour la construction, et toutes les ruptures de l'histoire, que ce soit la Révolution, la modernité ou bien la laïcité, sont présentées comme des moments de perte, tandis que la foi et la tradition servent de fil conducteur rédempteur. Rien d'étonnant à tout cela, puisque cette production est là aussi encore soutenue par le Fonds du bien commun, qui est l'organisme de financement créé par le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Sterrin. C'est un fonds qui date de 2021, vous savez, celui qui avait fait fortune grâce au Smartbox, et qui fait d'ailleurs toujours fortune grâce au Smartbox. La musique du spectacle, c'est Richard Liégeois qui compose pour le compte de Sterrin et Les Nuits du Bien Commun de manière assez régulière. D'après une enquête du journal Basta, ce spectacle, La Dame de Pierre, fait partie d'un réseau de plusieurs productions artistiques qui sont financées par des mécènes du même courant, à côté d'autres festivals historiques ou des films à thématiques religieuses. Donc une vraie production, en tout cas culturelle, de cette partie très réactionnaire et très à l'extrême droite de la politique française. Selon Basta, par exemple, Corentin Stemmler, donc celui qui a créé ce spectacle, est aussi à la tête d'une agence de communication et il travaille pour Bruno Seillier, par exemple, le producteur du spectacle « Raconte-moi la France ». C'est aussi le beau-frère d'un des fils de Philippe de Villiers, d'ailleurs. Et il travaille aussi pour une boîte qui s'appelle Amaclio Productions, qui fait de l'événementiel patrimonial, là aussi en affinité avec l'extrême droite. Voilà, l'équipe du Zénith Sud, hein, qui accueille l'événement, a été contactée par le journaliste du Point, qui a réalisé cet article. Ils n'ont pas donné suite. Voilà, peut-être que cette journée de blocage prévue pour l'anniversaire des Gilets jaunes et cette petite espèce de Disneyland party d'extrême droite pourrait se rencontrer. Ça serait intéressant, je pense. Là, ce que vous entendez, ce sont les autochtones brésiliens qui ont voulu s'inviter à la COP30 qui a démarré donc, à Belém. On est dans le nord du Brésil. Ces premiers jours donc, de cet grand événement autour de la biodiversité ont été le théâtre d'un affrontement entre la sécurité du sommet et des manifestants autochtones qui étaient venus rappeler que leurs communautés sont en première ligne de la lutte contre le dérèglement climatique. Et ils ont donc tenté, en marge d'un rassemblement qui avait lieu à l'extérieur, de rentrer et d'occuper le bâtiment qui accueille cette conférence pour revendiquer plus de représentation. Ces autochtones et leur soutien, ils terminaient en effet une marche pour le climat et la santé. Ils dansaient devant l'entrée de la COP30 à Belém, donc on est dans l'Amazonie brésilienne. Et ils ont ensuite rentré dans le bâtiment en passant les portiques de sécurité. Là, les agents de la sécu ont essayé de les empêcher de passer, donc ça a un petit peu poussé des deux sens. À coups de bac en plastique, de 2-3 coups de bac en plastique là, pour mettre ces objets, ont été échangés. Donc plusieurs ambulances et une rangée de militaires bloquaient les accès. Finalement, le calme est revenu assez rapidement et ensuite la sécurité a barricadé les entrées de la zone bleue. Hein, c'est le nom donné au cœur de la conférence climat sous contrôle de l'ONU. On est sur une zone de l'ONU. Ils ont mis des tables et des meubles pour empêcher les autochtones de rentrer. Le symbole est assez joli. Le mouvement autochtone voulait présenter ses revendications à l'intérieur de la zone bleue, mais ils ne les ont pas laissés entrer. Témoignait par exemple quelqu'un qui était là, João Santiago, prof à l'Université fédérale de l'État du Pará. Maria Clara, qui est une manifestante d'ailleurs de l'antenne locale du parti écologiste Rede Sustentabilidade, ces voix sont ignorées, dit-elle. En arrivant ici, ils sont entrés dans l'espace de la COP30 pour pouvoir revendiquer le fait que la COP va se terminer, mais que la destruction, elle, continue. Un autre militant qui était là, présent lui aussi, a expliqué au micro de reporter pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Donc lui, c'est un étudiant en archéologie qui vient de la région du fleuve Tapajós. Il est engagé depuis un an dans la lutte de la communauté Tupi-Namba, les Tupis à laquelle il appartient. Il explique que cette action-là, un petit peu violente, a été guidée par le désespoir et la frustration. Notre région du fleuve Tapajós, je ne sais pas comment on dit, a été vendue d'un trait de plume pour la construction de voies navigables. En effet, en août, le président brésilien nouvellement élu, Lula, signait un décret qui ouvre la voie à la privatisation de plusieurs voies navigables en Amazonie, donc les fleuves, dans l'idée de faciliter le transport des combustibles et des produits agricoles. Le projet menace 14 ethnies autochtones de la région, parce que le fleuve, c'est leur seul moyen de déplacement dans la forêt. Et c'est donc pour ça que les villages sont souvent... les villages sont au bord des fleuves. C'est la seule manière pour eux de communiquer entre eux. Et d'ailleurs, la sécheresse aussi menace ces navigations. On est donc au nord des fleuves. Ça, ce sont... Donc, je vous parlais des toupies, mais ils menacent, en plus de tout cela, des communautés ribeirinhas, qui sont installées au bord des fleuves, et les quilombolas, ces fameux quilombos fondés par des esclaves en fuite au cours des derniers siècles. Or, dit-il, nous subissons déjà un impact très important de l'exploitation minière. Celle-ci contamine l'eau des populations autochtones. L'eau, c'est la vie, et sans eau, nous ne survivons pas. Ainsi, l'année dernière, la ville de Santarém, on est au bord du fleuve Tapajós, enregistrait la pire qualité de l'air au monde. Vous imaginez, en Amazonie. Cela à cause de la fumée et de la déforestation causée par l'avancée de l'agro-industrie, qui est vraiment féroce au Brésil. Nous vivons sous menace quotidienne, et d'ailleurs, dit-il, plusieurs de nos leaders ont déjà été menacés par l'agro-négoce, qui n'hésite pas des fois à donner quelques billets à des mafieux locaux, des milices, pour intimider, voire tuer les militants. Pourtant, il y a quand même des représentants autochtones à la table des négociations à Belém, puisque le gouvernement Lula se targue même, il s'en vante, d'avoir réuni la plus grande participation autochtone de toute l'histoire des COP. Alors ce jeune militant dit oui, bien sûr, et ça serait la honte si ça n'était pas quand même. L'État du Pará, explique-t-il, a été construit par les autochtones. Mais ce que les chiffres ne montrent pas, donc les chiffres de représentation, c'est que ceux qui sont présents sont des représentants qui sont alignés sur la politique du gouvernement. Ils sont donc là pour donner l'image que les autochtones soutiennent le pouvoir. Or, dit-il, la plupart des représentants des peuples du Pará ne sont pas accrédités. Il y a environ 2500 représentants à Belen, seulement 14% d'entre eux auront accès à cette fameuse zone bleue où ont lieu les négociations officielles. Et, dit-il, ceux qui luttent, ceux qui ne se vendent pas, ceux-là ne sont pas écoutés. C'est donc pour cela qu'ils ont tenté ce coup de force et aussi pour ça que je trouvais ça important d'expliquer ce qu'ils vivaient au quotidien. Lula, dit-il, donne d'une main, reprend de l'autre, hein, avec quelques avancées qui ont quand même été notées, par exemple sur la réduction de la déforestation ou la démarcation de 16 nouvelles terres autochtones, mais à côté, empêcher la navigation fluviale ou la vendre, eh bien, ça ne va pas arranger la vie, et tout cela est sans compter en plus la question de l'exploitation pétrolière qui risque d'avoir lieu au large de la forêt ou du ferrograo, avec un projet de ligne de chemin de fer qui traverse l'Amazonie du nord au sud, sur plus de 900 km pour écouler la production agricole, qui est elle-même aussi source de déforestation. Bref, Lula et l'écologie, ça reste encore assez mitigé pour ces indigènes. Et ces heurts et le mécontentement des manifestants tranchent avec la volonté du Brésil donc de faire de cette conférence la meilleure COP en termes de participation indigène. Ça, c'était les termes de la ministre des peuples indigènes qui s'appelle Sonia Guajajara. Je ne sais pas trop comment on prononce les J en brésilien, je suis désolé. Allez, l'heure de se quitter, pour une fois, la semaine dernière, je vous ai passé que des chanteurs morts, plutôt du trad. Et là, vu qu'on était au Brésil avec un petit peu de colère, je vous propose Roots, Bloody Roots, du groupe Sepultura. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. We'll be right back.
Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.